Ce soir, donc, nous recevons Sophie Cluet, qui est informaticienne. Elle est née le 18 novembre 1957. Elle est docteure en informatique. Elle est actuellement directrice de recherche à l'Institut national de recherche en informatique automatique, l'INRIA, où elle est responsable scientifique du projet Verso, consacré aux bases de données. Elle est consultante également dans le monde industriel. Elle est spécialiste des bases de données. Elle est membre du conseil d'administration de la fondation VLDB, Very Large Database, dont les objectifs sont la promotion et l'échange à travers le monde des travaux de recherche sur les bases de données. Elle est conceptrice du langage de requête OQL, standard de l'Object Database Management Group, qu'elle a implanté pour la société O2 Technologies. Et Sophie Cluet est également l'auteur de très nombreux articles dans des revues spécialisées. Je vous remercie.
Je vous remercie. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas obligé d'être là, donc je vous remercie d'être venu. Je suis très émue, c'est la première fois que je parle devant des gens qui ne sont pas obligés de venir. On m'avait demandé de parler de bases de données et de flux d'informations, donc c'est un sujet assez vague, ce qui tombe bien parce que ça me permet de parler de ce sur quoi je travaille en ce moment, qui est la chose suivante. Vous avez tous entendu parler du web, donc c'est une masse de connaissances sur tous les sujets, dans toutes les langues, et qui est accessible à tous. À l'heure actuelle, il n'existe pas de logiciel qui vous permette, qui me permette de poser une question arbitraire mais précise, comme par exemple à quelle vitesse court le puma, ou quels sont les distributeurs de jouets sur la région parisienne, et d'obtenir la réponse pertinente à cette question, la vitesse du puma, ou vraiment la liste des noms et adresses des distributeurs de jouets. Ça, c'est la situation actuelle. Dans le même temps, le W3C, dont vous avez peut-être entendu parler hier si vous étiez là, qui est un consortium qui définit des normes pour faciliter l'utilisation du web, est en train d'imposer un nouveau standard, XML, qui est un standard de représentation de l'information sur le web. En fait, c'est un standard que vous, utilisateurs du web, ne voyez pas, c'est le standard en fait, que voient les logiciels qui passent l'information sur le web. Et il nous est apparu, alors nous, c'est un groupe de chercheurs de l'INRIA, donc le projet Verso, mais également des chercheurs de l'université de Mannheim en Allemagne, des chercheurs du CNAM, de l'équipe de Vertigo, et des chercheurs en intelligence artificielle de l'université de Paris 11. Il nous est apparu que si ce standard réussissait à s'imposer, on pourrait construire une base de données vraiment intelligente qui permettrait justement de poser des questions arbitraires et d'obtenir des réponses précises. Donc c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors le plan, je vais d'abord parler très brièvement du web. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien le web, donc on va aller quand même assez rapidement. On va permettre un peu d'accélérer après pour la suite. On va passer à la recherche d'informations sur le web. Quels sont les logiciels existants à l'heure actuelle et pourquoi ils ne sont pas satisfaisants? Pourquoi ils ne me permettent pas d'obtenir l'information que je cherche? Nous parlerons ensuite de la représentation des données telles que les logiciels les voient. Donc actuellement, le format c'est HTML, nous espérons que demain ça sera XML. Et je vous expliquerai pourquoi XML est un bon format. Et enfin, je parlerai du projet Xylem, qui est donc ce projet de construction d'une base de données du web. Web, c'est le diminutif de World Wide Web. Donc World Wide Web, ça veut dire la toile d'araignée qui s'étend à travers le monde, la toile d'araignée aussi large que le monde. Les Québécois, d'ailleurs, parlent de la toile plutôt que du web, et je pense que c'est un mot assez approprié. Donc le web, c'est une toile d'araignée. C'est une toile d'araignée dont les nœuds sont des documents. Alors, comme ce sont des documents assez petits, on parle plutôt de pages, parce que ce sont des documents de une ou deux pages, et dont les fils sont des liens entre les documents. Donc, chaque document est lié à d'autres documents, référence d'autres documents, et ça constitue les fils de la toile. Alors, voyons ce que c'est qu'un document sur le web. Donc, je vous ai dit, on commence lentement. Donc, je vous montre un document tel que vous envoyez sur le web si vous prenez un navigateur. Donc, c'est un document, il y a du texte, il y a des images. Mais on voit que certaines parties de texte, comme ici, sont soulignées. Et si vous mettez votre souris sur cette partie de texte et que vous cliquez, vous allez aller vers un autre document, vous allez suivre un lien. En fait, il y a deux types de documents sur le web. Il y a des documents comme celui-ci, qui sont des documents qui existaient avant que vous vous connectiez et qui existeront une fois que vous seriez déconnecté. Mais il y a également d'autres documents qui sont des documents calculés. Alors, exemple typique de document calculé, quand vous passez une commande sur le web, comme vous aviez l'habitude d'en passer sur Minitel, à un moment donné, on va vous donner un récapitulatif de votre commande. Ce récapitulatif, c'est un nouveau document, il n'existait pas avant, il n'existera pas plus tard. Donc, c'est un document qui a été calculé en fonction des données que vous avez données vous-même pendant l'interaction avec le navigateur. Autre type de document, celui que je vous montre ici, c'est le résultat d'une recherche d'informations sur le web. Donc j'ai demandé des informations sur les distributeurs de jouets, je voulais l'adresse des distributeurs de jouets, et voilà la page qui m'a été retournée, qui n'existait pas avant et qui n'existera pas quand je me serai déconnectée. Donc, je vous ai montré des documents. Maintenant, vous vous demandez où sont ces documents, en fait. Ces documents, donc, ils sont, je pourrais vous répondre, ils sont dans le monde, ils sont... excusez-moi. répartis quelque part sur le monde. Mais ce n'est pas très précis comme renseignement, donc je vais tâcher de vous donner des renseignements un peu plus précis. Donc, en général, les documents sont regroupés. Ils sont regroupés par site. Un site va représenter une entité logique comme l'INREA, par exemple, un organisme ou une société. Va avoir un ensemble de documents qui décrit cette société, cet organisme, ce groupe de personnes. N'importe quelle entité logique peut avoir un site. Donc, un site, c'est un ensemble de documents qui a trait à une société ou un organisme. Ces sites, donc cet ensemble de documents, va être stocké sur un disque. Et ce disque va être géré par un ordinateur. Cet ordinateur va s'appeler un serveur. Cet ordinateur va être connecté à l'Internet et quand vous allez demander un document sur le web, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une connexion sur ce serveur, on va interroger cet ordinateur et cet ordinateur va retourner la page que vous attendiez. Alors, j'ai parlé des documents, j'ai montré un peu l'organisation de ces documents dans le monde. Maintenant, on va parler des liens. Alors, pour parler des liens, c'est un peu plus difficile. Tout à l'heure, je pouvais vous montrer la page telle que vous la voyez. Le lien tel que vous le voyez, finalement, c'est jamais qu'un trait sous un morceau de texte. Et puis, il y a une action. Quand on clique, paf, on passe à un autre document. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai pensé que c'était peut-être intéressant de vous montrer ce qui se passait, en fait, quand vous cliquiez sur un document. Donc, derrière, visible seulement par l'ordinateur, il y a une instruction. D'accord ? Donc, un document, c'est un texte. Et puis, il y a des morceaux de texte qui sont encadrés par... ce qu'on appelle des balises, donc c'est des crochets ouvrants. Là, vous voyez, il y a un crochet ouvrant, un crochet fermant. Ça, c'est une balise A. Et puis, il y a une balise correspondante ici, qui est la même balise A avec une barre verticale, une barre en diagonale, et qui encadre un morceau de texte. Donc, le morceau de texte encadré, dans ce cas-là, c'est l'INRIA. C'est le morceau de texte que vous allez voir souligné sur la page que vous voyez sur votre navigateur. D'accord ? Et quand vous cliquez, eh bien, le programme va comprendre que ce que vous voulez, en fait, c'est aller à cette adresse-là. D'accord ? Donc cette adresse-là, qu'est-ce que c'est ? Ça commence par HTTP, qui est le nom d'un protocole. Donc les logiciels vont communiquer, il faut qu'ils sachent comment ils vont communiquer, donc ils ont un protocole de communication. Dans ce cas-là, c'est HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Et puis ensuite, il y a l'adresse du serveur. Donc vous vous rappelez, le serveur, c'est la machine à laquelle vous allez vous adresser et qui va vous donner le document. Et puis après, il y a l'adresse du fichier sur cette machine. D'accord ? Donc ça, c'est un lien vers une page stockée. Un lien vers une page qui existait avant que je me connecte. Maintenant, quand j'interroge le web, quand je pose une question à un moteur de recherche ou quand j'ai une interaction avec un site quelconque, je vais avoir des liens vers des pages qui vont être calculées. D'accord ? Donc, c'est ce que je vous montre ici. Donc, ça ressemble à peu près aux liens qu'on voit un peu plus haut. Donc, de la même façon, j'ai une portion de texte encadrée par deux balises. Mais on voit que l'adresse est légèrement différente. En fait, l'adresse commence toujours par le nom du serveur. Et puis ensuite, ici, au lieu d'avoir le nom d'un fichier, j'ai le nom d'un programme. Donc c'est le programme Search, recherche. Derrière le point d'interrogation, je vais trouver les paramètres de ce programme. Et là, la recherche que j'ai faite, eh bien, c'est adresse, distribution et jouet. D'accord ? Donc ça, c'est un lien vers une page calculée. Alors, quelques données. Actuellement, le web, donc je dis actuellement, en fait, ce sont des chiffres qui datent déjà du mois de mars, je crois. Donc au mois de mars, on estimait le web à 1 milliard de pages. En fait, c'est très difficile de savoir exactement quelle est la taille du web. Donc ça, c'est une estimation qui en vaut d'autres. On prévoit également une multiplication par 100 du nombre de pages d'ici 2 ans. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de la progression du web. Le web envahit tout. Alors, je pense que cette progression est aussi beaucoup liée au fait que pour l'instant, le web est essentiellement américain. C'est-à-dire que la plupart des pages sont aux États-Unis et le web est essentiellement accédé par des Américains. Ça change. L'Europe s'y met même très sérieusement, et je pense que cette multiplication est justement liée à l'intérêt que les Européens portent maintenant au web. Les exemples de données que vous allez trouver sur le web, eh bien, de tout, globalement de tout, des dictionnaires, des encyclopédies, des annuaires, les recettes de cuisine de votre grand-mère, les concepts de bricolage de votre grand-oncle, la dissertation de philosophie de votre fille que vous trouvez particulièrement intéressante, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez sur le web. Alors, pourquoi un tel succès? Le web, c'est un grand succès parce que c'est un espace de liberté, c'est-à-dire n'importe qui, vous, moi, on peut rajouter notre page au web, on peut mettre ce qu'on veut sur le web. Par exemple, moi, je peux décider que je suis une très bonne critique télévisée et j'ai envie que le monde profite de mes critiques télévisées. Donc, toutes les semaines, je vais écrire mon petit texte avec mes critiques télévisées de la semaine. Je vais prendre pour ça un éditeur standard, hein, l'éditeur que vous utilisez si vous avez un ordinateur, et puis je vais taper mes critiques. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est un fichier avec mes critiques. Je ne suis pas encore connectée au web. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est faire un lien depuis mes critiques vers d'autres pages du web. Là, par exemple, j'ai une critique de film Laura. Mais je vais pouvoir lier Laura, le mot Laura, à la page sur laquelle je vais avoir la description du film ou le fan club de Jane Tierney, par exemple. Donc je peux mettre comme ça autant de liens que je veux depuis ma page vers d'autres pages du web. Mais pour l'instant, personne ne me voit. Je veux dire, moi, je me connecte à d'autres pages, mais personne ne me voit. Maintenant, ce que je veux, c'est que les gens puissent accéder à ma page. Alors pour ça, deux solutions. Soit j'ai des amis qui ont déjà des pages, à qui je vais demander gentiment de mettre des liens depuis leur page vers la mienne. Soit je n'ai pas d'amis qui ont déjà des pages, auquel cas, il va falloir que je prenne une connexion. Donc je vais m'abonner à un service comme Wanadoo et je vais leur demander de m'ouvrir une page. Et à ce moment-là, je serai visible, il y aura un lien depuis une page déjà existante sur le web vers la mienne et les gens pourront venir me voir. Voilà, donc le problème de la liberté, c'est que c'est souvent synonyme d'anarchie et en l'occurrence, le web, c'est vraiment l'anarchie. C'est-à-dire que si vous essayez de prendre, enfin j'ai essayé de prendre une image un peu concrète, vous imaginez un énorme hangar. Et puis, vous allez prendre des encyclopédies, des dictionnaires, des annuaires, des recettes de cuisine, tout ce que vous voulez. Vous allez déchirer les pages, vous allez les mettre dans le hangar, vous allez brancher un ventilateur et puis vous allez laisser tourner pendant un ou deux jours. Et voilà le web. Donc maintenant, on va vous demander d'aller chercher de l'information. Difficile. Donc si je reste dans l'image concrète, si je quitte le monde virtuel, ce que vous pouvez faire, c'est employer une armée de bibliothécaires qui vont aller regarder toutes ces pages les unes après les autres et puis essayer de les classifier de façon à pouvoir vous dire « Ah ben les recettes de cuisine, c'est plutôt par là ». Le problème, c'est que vous avez vu qu'il va y avoir une multiplication par 100 en 2 ans. Donc, ça vous donne un peu une idée du nombre de pages nouvelles qui arrivent tous les jours, hein, et aussi du nombre de pages, c'est très dynamique, qui vont être supprimées, qui vont être modifiées. Donc, vos bibliothécaires, ils vont vraisemblablement être très déprimés et ils vont démissionner. Heureusement, les logiciels n'ont pas d'état d'âme. Et on va voir qu'il existe des logiciels qui mettent justement un peu d'ordre dans cette anarchie ambiante. Alors, ces logiciels, en fait, existent essentiellement en deux parfums. Il y a les moteurs de recherche et puis il y a les portails. Donc je vais parler dans un premier temps des moteurs de recherche. Et vous allez voir que ça va devenir un peu plus technique que ça n'était jusqu'à présent. J'espère que je vais vous garder avec moi. Alors, je vais parler des moteurs de recherche. D'abord, l'architecture générale de ces moteurs de recherche. Ensuite, les principaux composants de ces moteurs de recherche. On va voir que ce n'est pas des logiciels monolithiques, mais bon, ce sont des logiciels avec plusieurs composants. Et ensuite, les problèmes des moteurs de recherche. Donc l'architecture générale, donc vous avez le web. Et la première chose qu'on va mettre, on va mettre des logiciels qu'on appelle des robots, dont la charge va être d'aller collecter tous les documents qui se trouvent sur le web. Donc ces robots vont envoyer un flux de documents à un autre logiciel qui s'appelle l'indexeur. L'indexeur va construire un index, comme les index que vous trouvez à la fin de certains livres, qui a un mot associé à toutes les pages dans lesquelles vous trouvez le mot. Donc là, ce que vous avez finalement à la fin, c'est un index dans lequel vous avez les mots et puis les documents dans lesquels vous trouvez les mots. Mais pour l'instant, personne n'a accès à cet index. Donc pour donner accès à cet index, eh bien, il suffit tout simplement de créer une page. Comme tout à l'heure, j'en ai créé une avec mes critiques télévision. Là, je vais créer une page avec un petit éditeur à l'intérieur. Donc la personne va pouvoir taper son texte et puis en cliquant sur « Lancer votre recherche », elle va lancer un programme qui va s'exécuter sur l'index et qui va donc retourner toutes les pages qui contiennent les mots que vous avez tapés. Alors, regardons de plus près les robots. Je me sens dans l'obligation de vous donner certains mots anglais parce que je pense que les gens connaissent plus les robots sous le mot de « crawler » que sous le mot de « robot ». Donc un robot, c'est un crawler. Si vous entendez parler de crawler, c'est la même chose que mes robots. Donc le crawler ou le robot a pour objectif de faire un parcours systématique du web. Il doit aller collecter toutes les pages du web. Pour ça, alors, on a vu que le web c'était une toile d'araignée. C'est aussi un graphe, si vous vous rappelez de mathématiques de l'école. Donc un graphe qui est fortement connecté. C'est-à-dire que si vous partez d'un nœud de ce graphe et que vous suivez systématiquement tous les liens, vous allez toucher une très grande portion du web. Maintenant, si au lieu de partir d'un seul nœud, vous partez de 10 nœuds, vous allez commencer à couvrir sérieusement le web. Et puis si vous prenez 100 nœuds, là, vous êtes quasiment sûr de couvrir 99% du web. Donc c'est exactement ce que va faire un robot. Un robot va partir d'un certain nombre d'adresses, judicieusement choisies, et puis va suivre les liens de façon systématique pour aller rechercher tous les documents du web. Alors il y a quand même quelques difficultés, là comme ça paraît assez simple, mais il y a quand même quelques difficultés. La première difficulté, c'est que ces robots ne doivent pas épuiser les sites, les serveurs en l'occurrence. Je m'explique. En tant qu'individu, quand je vais sur un navigateur et que je parcours le web, il va s'écouler en général à peu près une minute entre le moment où je vais demander une page et puis le moment où je vais cliquer pour demander une autre page. D'ailleurs, des fois, il peut s'écouler 5 minutes si cette page m'intéresse particulièrement. De la même façon, il y a plusieurs liens sur une page. Je ne vais pas suivre tous les liens, je vais suivre éventuellement un ou deux liens. Je sais ce que je cherche, donc je vais faire preuve d'un peu d'intelligence et puis de cliquer sur les liens qui paraissent intéressants. Un robot, lui, veut toutes les pages, donc il va cliquer sur tout. Et puis l'interaction, le moment entre l'arrivée d'une page et le déclenchement, la demande d'une autre page, c'est plutôt de l'ordre de la seconde que de l'ordre de la minute. Donc si votre robot est mal programmé, ce qui va se passer, c'est que votre serveur, au lieu de recevoir une requête toutes les minutes, va potentiellement recevoir 1000 ou 10 000, d'accord ? Donc au bout d'un certain temps, un serveur, si vous lui envoyez trop de requêtes et qu'il n'est pas capable de répondre assez rapidement à vos requêtes, eh bien, il va s'écrouler. La mémoire du serveur va être pleine avec toutes les requêtes qu'il n'a pas été capable de traiter, puis il va s'écrouler. Donc ça, c'est pour les serveurs qui sont mal programmés. Maintenant, la plupart des gens ont compris qu'il y avait des robots qui traînaient partout, et puis d'ailleurs, ils sont contents d'avoir ces robots, parce qu'en fait, être robotisé, excusez-moi de néologisme, c'est aussi être vu sur le web, parce que les robots, c'est les moteurs de recherche, vous voulez en général être vu, donc vous êtes intéressé parce que les moteurs de recherche vous voient. Mais en même temps, vous ne voulez pas non plus qu'on tue votre machine de façon régulière. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans votre serveur, vous allez mettre des petites instructions qui vont garantir que si vous voyez une personne mal élevée qui vient et qui vous demande trop d'informations et de façon trop rapprochée, eh bien vous allez la jeter, c'est-à-dire que vous allez la rejeter complètement. C'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé à l'INRIA au début, quand on a commencé à programmer nos robots, eh bien on les a mal programmés, et ils sont allés un peu trop systématiquement sur les serveurs, et puis là les serveurs vous rejettent, et ils vous rejettent définitivement, hein. Donc vous ne pourrez plus jamais aller examiner un site qui est servi par serveur. Donc c'est un peu embêtant. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors pour ça, c'est finalement pas si compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner, passer d'un serveur à l'autre plutôt que de rester toujours sur un serveur. La deuxième difficulté, c'est d'éviter les cycles. Tout à l'heure, je vous ai montré une page qui était en fait la page de l'INRIA Rocancourt. Et de cette page, il y avait un lien vers l'INRIA Général. Donc l'INRIA Rocancourt, c'est un site de l'INRIA qui est à Rocancourt, et l'INRIA Général, c'est l'organisme. Si vous allez sur la page de l'INRIA, vous verrez un lien vers l'INRIA Rocancourt. D'accord ? Donc votre robot, il peut s'amuser à passer de l'INRIA Rocancourt à l'INRIA, l'INRIA Rocancourt à l'INRIA, et on ne progresse pas beaucoup. Donc pour éviter les cycles, il y a une solution assez simple, sauf qu'en fait, si vous pensez qu'il y a 1 milliard de pages, vous voyez que c'est un peu plus compliqué, eh bien on va stocker les adresses qu'on a déjà parcourues. Et puis à chaque fois, systématiquement, quand on va reprendre une page, il va y avoir dedans des liens, on va ne s'intéresser qu'aux liens qu'on n'a pas encore été examinés. Donc ça va être un processus, en fait. On peut voir ça comme deux processus. Il y a un processus qui va regarder, qui va chercher toujours à chaque fois de nouvelles pages, mais il y a un deuxième problème qui est de pouvoir relire des pages. Si je ne lis les pages qu'une seule fois, je ne verrai pas les évolutions des pages, d'accord ? Mes critiques télévision, par exemple, vous allez lire une fois, le robot va la lire une fois, et puis après, le robot ne remarquera pas que ma critique a changé. Donc pour ça, le robot doit implanter une politique de relecture des pages. Donc, un robot lit de l'ordre de quelques millions de pages par jour. Donc, ça va dépendre un peu de la qualité de votre robot. Ça peut aller jusqu'à 10 millions et ça peut partir de beaucoup moins qu'un million. Maintenant, le web en contient 1 milliard. Donc, on voit que déjà, il y a un premier problème qui va être de lire suffisamment rapidement. Puis, c'est 1 milliard qui va grossir pour devenir 100 milliards d'ici 2 ans. Donc, il ne s'agirait pas de passer 4 ans à robotiser le web avant d'avoir toutes les informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, bien sûr, plusieurs robots, autant de robots qu'il le faut pour avoir un temps de lecture qui nous paraît raisonnable, qui peut être de l'ordre de la semaine ou de l'ordre du mois. Et puis après, on va aussi régler un peu la relecture. Donc moi, ce que je veux, c'est par exemple lire les critiques télévisées toutes les semaines. Donc je vais regarder un peu les modifications des pages que je lis, la fréquence de modification, et je vais m'inspirer de cette fréquence de modification pour relancer mon robot sur certaines pages. De la même façon, peut-être qu'un moteur de recherche ne va pas être très intéressé par les critiques télévisées de Sophie Cluet et va peut-être préférer aller voir des pages qui sont plus importantes. Alors, comment mesurer l'importance d'une page quand on est un logiciel? Eh bien, il y a une technique qui est assez utilisée qui consiste à compter le nombre de références vers cette page. Plus une page est référencée, plus elle est importante. Donc, on va utiliser ces statistiques pour lancer des relectures de façon systématique. Donc, toutes les semaines, il y aura un ensemble de pages, tous les mois, un autre ensemble de pages, etc., de façon à avoir toujours une photographie à peu près correcte du web. Bon, sur ce, il ne faut pas se leurrer. Hein. On n'a pas une photographie exacte du web, puisque la photographie prend quand même de l'ordre d'au moins une semaine, disons. Donc, vous avez toujours une photographie un peu datée. Mais bon, sur les documents importants, on va tâcher d'avoir quand même une précision assez bonne. Et par exemple, certains documents vont être lus tous les jours. Donc, au pire, il y a un jour de retard. Ça va, je parle pas trop vite. Je parle pas trop vite. Je me détends. Là, j'ai terminé, en fait. Dans ça. Donc, ça, c'était le premier composant, un composant très important des moteurs de recherche, le robot. Donc, le robot qui est en charge d'aller chercher toutes les pages du web. Le deuxième composant extrêmement important aussi, c'est le composant indexeur, donc la mission indexée. Donc, ce composant reçoit en entrée les pages, toutes les pages, les unes après les autres, et doit les indexer. Alors, comment fait-il? Donc, là, je vais vous montrer comment on indexe une page. Donc, c'est toujours mes critiques télé. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est analyser cette page. On va faire une analyse lexicale, une analyse des mots de cette page. La première tâche que va devoir résoudre cet analyseur lexical, ça va être de déterminer dans quel langage est écrite cette page. Est-ce que c'est une page en français, en anglais? Donc, ça, c'est des algorithmes qui ne sont pas trop compliqués. Et en fait, la langue va me permettre de déterminer quels sont les mots importants et quels sont les mots qui ne sont pas importants. Donc là, typiquement, 7, c'est peut-être pas un mot très important à indexer, notre non plus. Par contre, vous allez remarquer que j'ai sélectionné, donc à droite, ici, vous voyez les mots qui ont été sélectionnés par l'analyse lexicale. Donc on voit critique, ce qui paraît assez pertinent, semaine, qui est également peut-être assez pertinent. Par contre, somme, ici, vous voyez en fait que mon analyseur lexical s'est trompé. Somme, c'était la conjugaison du verbe être. Lui, il a compris que c'était peut-être un mot, comme une somme arithmétique. Il a donc enlevé le S, puisqu'il préfère les mots singuliers que les mots pluriels, et il l'a compté comme un mot intéressant. D'accord ? Donc, voilà ce que mon analyseur lexical a sélectionné. Une fois que vous avez sélectionné les mots, maintenant, il s'agit de les rentrer dans l'index. Hein, d'accord ? Donc, je vais vous parler tout à l'heure de la technique de hachage qui va me permettre justement de prendre des mots et de les mettre dans un index de façon à pouvoir ensuite récupérer les mots rapidement. Donc, dans mon index, ce qu'on va voir, eh bien, c'est les mots là que j'ai sélectionnés, plus beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Et puis, on voit que critique est associé au document X, c'est-à-dire celui-ci, mais également d'autres documents qui contenaient ce mot au préalable. Donc maintenant, je vais vous parler de hachage, une technique de hachage. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique de hachage? De façon un peu abstraite, j'en ai peur, la technique de hachage consiste à découper un ensemble en n sous-ensembles de taille à peu près équivalente. En fait, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est découper un ensemble en n sous-ensembles de taille parfaitement égale. Mais on ne sait pas faire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut découper un ensemble en n sous-ensembles de taille similaire? En fait, il y a deux raisons. La première raison tient à la taille de l'index. Je vous ai dit qu'il y avait 1 milliard de pages, il va y avoir 100 milliards de pages bientôt, mais là, on va regarder juste 1 milliard de pages. Je fais un petit calcul assez rapide. Alors, 1 milliard de pages, vous regardez les 9 chiffres, les 9 zéros qui sont à la fin, et puis vous considérez qu'un document en moyenne fait 10 000 caractères. D'accord ? Donc, on multiplie le milliard par 10 000. Après, vous êtes intelligent, vous avez un index qui est quand même assez efficace, il est capable de compresser un peu les données pour que ça prenne un peu moins de place. Donc, on va dire qu'on le divise par 3, ce qui est à peu près un standard dans les bons index. Donc, je divise par 3, et ça vous donne donc la taille de 1000 PC de 1 giga. Donc, vous avez besoin de 1000 PC avec 1 giga de mémoire pour indexer le milliard de documents de 10 kilooctets par document. D'accord ? Donc, bien sûr, on n'a pas de machine qui soit suffisamment grosse pour tenir toutes ces données, donc on va être obligé de diviser, de répartir les documents sur plusieurs machines. D'accord ? Mais il ne s'agit pas de répartir de façon idiote, où on va avoir d'un côté 1 milliard de documents et puis 999 machines avec 0 documents. D'accord ? Il faut les répartir de façon à peu près équitable. Donc on veut que les documents soient répartis en 1000 sous-ensembles de taille égale. Donc c'est à ça que sert c'est la première utilisation de la technique de hachage. La deuxième utilisation, je vais la développer maintenant, et ça vous montrera un peu en même temps ce que peut être une fonction de hachage. La deuxième utilisation, ça va être l'accès à l'index et l'organisation de l'index, en fait, plus que l'accès, mais également l'organisation de l'index. Donc, regardons comment on utilise un index. Oh, je suis désolée. Donc là, vous avez une requête. La requête, c'est « Donnez-moi les documents qui contiennent critiques et films ». Et puis ici, vous avez l'index. Donc, on a vu tout à l'heure que l'index associé à des mots, des documents. Donc ici, j'ai critique associée à SXY et film associé à ADX. D'accord ? Si je veux répondre à cette requête, la première chose que je vais devoir faire, c'est aller chercher les documents associés à critique, les documents associés à film, et puis faire une intersection entre ces deux ensembles pour avoir les documents qui nous contiennent et critique et film. Donc, pour aller chercher dans cet index, une chose que je peux faire, c'est faire comme vous et moi, quand on va chercher dans un index à la fin d'un livre, on l'ouvre à peu près au milieu, on regarde si notre mot se situe plutôt avant ou plutôt après, et puis comme ça, on avance de façon itérative jusqu'à trouver la page qui contient notre mot. Donc ça, ça peut prendre un certain temps, mais ce n'est pas vraiment le problème. Le problème avec un ordre alphabétique, donc là, ça demande à ce que je mette mon index par ordre alphabétique. Excusez-moi, là, les idées ne sont pas claires, donc je reprends. Une première technique consiste à avoir un index ordonné alphabétiquement. D'accord ? Donc on voit que ça peut être un peu embêtant dans la mesure où il va falloir tâtonner avant de trouver son mot. Mais le problème principal, ce n'est pas tellement qu'on va tâtonner pour trouver son mot. Le problème, c'est de rentrer les mots dans cet index. D'accord ? La mémoire d'un ordinateur... c'est saucissonné, d'accord ? Donc si je mets deux mots de façon consécutive, si je dois positionner un mot qui n'existait pas au préalable, mais qui doit se positionner entre ces deux mots, ah, mais j'ai pas de place. Donc la seule façon de faire, ça serait de déplacer tous les mots un cran plus bas, de façon à pouvoir placer le mot au milieu. Vous imaginez un peu quand vous avez un million de mots, ce que ça peut donner comme travail. D'accord ? Donc c'est une chose qu'on veut pas faire. Donc on veut pas avoir un index par ordre alphabétique parce que ça prendrait trop de temps, ça serait pas maintenable. Donc ce qu'on va faire, eh bien, justement, on va utiliser les techniques de hachage. Donc, on va créer une fonction, on appelle fonction de hachage, et qui, à un mot, va associer un entier. Et cet entier, ça va être justement l'adresse dans la mémoire de mon index. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on écrit une fonction de hachage ? Eh bien, ça demande de grandes compétences en mathématiques que je n'ai pas. D'ailleurs, je n'écris pas de fonction de hachage, j'utilise celle que les autres écrivent. Mais une technique, une fonction de hachage, c'est quelque chose qui peut être, vous associez un entier à chacun des caractères, vous faites la somme, une multiplication, une division par 4, et puis voilà, c'est une fonction de hachage. Alors bien sûr, cette fonction-là va peut-être pas être terrible, c'est-à-dire que peut-être que je vais avoir beaucoup de conflits, tous les mots vont être codés de la même façon, donc il y a des propriétés de fonction de hachage qui vont faire que, bon, il y a des bonnes qui répartissent bien, qui divisent bien les sous-ensembles en 1000 sous-ensembles, si c'était 1000 que je cherchais, et puis des mauvaises. Quoi qu'il en soit, même une bonne technique de hachage, même une bonne fonction de hachage, va vous donner des collisions. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que la fonction associée appliquée à critique vous donne 200, mais ça peut être également la valeur qu'on va retourner la fonction appliquée à pantalon. D'accord ? Donc il va falloir que je sois capable de traiter ces collisions. La fonction va pouvoir retourner deux fois la même valeur pour deux noms différents. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, mais c'est qu'on va faire des listes de collisions. C'est-à-dire que là, si je regarde, donc j'ai mon index qui maintenant n'est plus ordonné, qui n'a plus d'ordre alphabétique. Ici, j'ai les adresses dans cet index. Et puis, on voit qu'à l'adresse 200, j'ai critique. Et à l'adresse 1250, j'ai film. Et donc, il y avait deux collisions ici, pantalon et photo. Eh bien, on va mettre ce qu'on appelle des listes chaînées. Et comme ça, on va pouvoir agripper tous les mots qui ont la même valeur de hachage que film ou critique. D'accord ? Donc clairement, si ma fonction de hachage est mauvaise, ce qui va se passer, c'est que ma table va être vide et que par contre, je vais avoir une entrée avec un million de mots. C'est un peu embêtant. Donc voilà. Alors, conclusion sur les moteurs de recherche. Donc on voit quand même que ça donne vraiment ça ordonne quand même le web. C'est-à-dire que pour un mot, je suis capable de retrouver tous les documents qui contiennent ce mot, ce qui est déjà un net progrès. Mais il y a quand même quelques problèmes. Le premier problème, c'est que l'analyse des résultats d'une requête peut être longue. Là, je donne un exemple. Donc, j'ai cherché adresse distribution jouets. En fait, ce qui m'intéressait, c'était l'adresse de distributeur de jouets sur la région parisienne. J'aurais pu taper Paris aussi, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et là, ce qu'on voit, c'est la réponse à cette requête. Et la réponse à cette requête, eh bien, c'est un petit descriptif avec un lien vers, justement, une page qui contient adresse distribution et jouets. Alors, je ne vous donne pas vous pouvez le faire vous-même, hein, prenez un moteur de recherche et tapez la requête. Mais bon, j'ai suivi ces liens, là, les trois ou quatre premiers liens, et globalement, je n'ai pas trouvé d'adresse de distributeur de jouets. Je pense que si je passais une journée ou deux, éventuellement, je trouverais l'adresse des distributeurs de jouets ou éventuellement, je prendrais mon téléphone, je trouverais un numéro de téléphone. Là, le premier, par exemple, c'était un congrès. Donc, je pense que si j'avais téléphoné aux organisateurs de congrès, peut-être que j'aurais pu avoir la liste des distributeurs de jouets, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même un grand pas entre ce qu'on vous retourne et puis l'information telle que vous la cherchiez. Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez beaucoup de mauvaises réponses. Là, par exemple, je m'intéressais à la vitesse du puma. Donc c'est vrai, je n'ai pas tapé animal, mais bon, j'ai essayé après avec animal, ça ne marchait pas beaucoup mieux. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai la Ford Puma, j'ai l'hélicoptère Puma, enfin, j'ai beaucoup de choses, mais je n'ai pas la vitesse de l'animal, qui était pourtant ce que je cherchais. Donc on n'a pas des réponses précises, parce que globalement, les questions ne sont pas précises. Vitesse Puma, finalement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors pour le premier problème, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont envisagées à l'heure actuelle. On continue à donner des listes longues. Mais par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de réduire le nombre d'éléments qui sont retournés en affinant un peu la réponse à la requête. Alors pour ça, il y a plusieurs évolutions. Dans cet idiot, je n'ai pas marqué le nom de ces moteurs de recherche, mais il y a un moteur de recherche qui s'appelle Zapper, Z-A-P-E-R, et un autre qui s'appelle Ask Jeeves, qui couplent leurs moteurs avec des techniques d'analyse du langage naturel. Donc, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de... Ils vont vous demander de donner un contexte, donc un morceau de texte, par exemple, qui vont un peu plus cibler la requête. Donc, par exemple, je pourrais chercher la vitesse du puma dans le contexte de la zoologie, ce qui donnera vraisemblablement ce qui devrait permettre d'éliminer les hélicoptères et les voitures. Une autre technique consiste à inférer, à trouver les synonymes des mots qui font partie de la requête. Par exemple, vitesse, kilomètre heure, ça peut être, c'est pas vraiment un synonyme, mais en tout cas, ça peut être une indication, ou rapidité, ce sont des mots qu'on va rajouter à la requête, et puis comme ça, pour essayer de retourner éventuellement les réponses. Bon, sur ce, j'ai utilisé les deux logiciels dont je vous ai parlé, je n'ai pas trouvé la vitesse du puma ou l'adresse de distribution des jouets. Donc, c'est pas encore ça. Alors, deuxième famille de moteurs, de systèmes de recherche d'information, ce sont les portails. Donc, on va voir que les portails sont beaucoup plus précis que les moteurs de recherche. Alors, on va regarder rapidement comment on interroge un portail, les étapes de la construction d'un portail et les problèmes que posent les portails. Alors, un portail, c'est un peu comme si on vous offrait un sommaire du web. Alors évidemment, difficile de couvrir tout le web. Donc en fait, il va y avoir des portails assez thématiques. Chacun va être spécialisé dans quelques domaines ou dans quelques sous-domaines. Donc là, je vous ai écrit mon portail à moi qui est concerné par la culture et le tourisme. D'accord ? Donc quand j'ai une question à poser, déjà la première difficulté, ça va être de trouver le portail qui va me permettre de la poser, cette question. Hein. Donc là, si je suis intéressé par le tourisme, il faut que je trouve un portail qui traite du tourisme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le tourisme. Alors je vais cliquer sur « Tourisme ». Et alors là, ben, on va me donner, c'est vraiment comme une table des matières. Vous allez avancer dans votre table des matières, donc on va me donner une autre page où on va me dire, ben, le tourisme c'est bien, mais vous êtes intéressé par des vols d'avion ou par des hôtels. Moi, je suis intéressé par des hôtels, donc je vais cliquer. Et enfin, là, je vais pouvoir formuler ma requête. Donc on va me demander dans quelle ville vous cherchez un hôtel et quelle catégorie d'hôtel vous recherchez. Donc je vais taper Paris, deux étoiles. Et alors là, on va rentrer dans une petite boîte mystérieuse. Je vais vous expliquer un peu tout à l'heure comment ça fonctionne. Qui vont prendre ma requête. Il va y avoir l'interrogation de différents sites sur le web. Il va y avoir une intégration après des réponses. Et puis, on va me retourner finalement une page, vraiment comme celle que je cherchais tout à l'heure. Vous vous rappelez, je cherchais le nom et les adresses de distributeurs de jouets. Mais là, ça me retourne bien le nom, un petit descriptif des hôtels. Donc, c'est vraiment une bonne information. Ce n'est pas des listes d'URL. Excusez-moi, je n'ai pas dit ce que c'était qu'une URL. Ce n'est pas des listes d'adresses vers des documents. C'est vraiment l'information qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment un grand progrès. Par contre, là, on va avoir une régression, c'est que là où dans le moteur de recherche, tout était automatisé, et donc on avait finalement les logiciels étant quand même plus rapides que les hommes pour faire des tâches un peu automatiques et un peu répétitives, mais là, la plupart le portail est essentiellement construit par des humains. Et donc, ils sont rarement à jour. Alors voilà. Comment on construit un portail? On met un groupe de personnes spécialisées dans le domaine qui vous intéresse. Donc là, par exemple, on peut imaginer que ce sont des gens qui sont spécialisés dans le tourisme. Alors, ces personnes vont interroger le web sur les hôtels. Ils se demandent, tiens, moi, je voudrais construire une page sur les hôtels. Qu'est-ce que je vais pouvoir pêcher comme information sur le web sur les hôtels? Alors, pour ça, ils vont interroger les moteurs de recherche, ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis ils vont aller cliquer, claquer, jusqu'à trouver les informations qui sont intéressantes. Donc là, on va supposer qu'en cherchant bien, on a trouvé trois pages qui nous paraissent intéressantes. Une première page, c'est l'Office du tourisme de Paris, avec une liste des hôtels sur Paris. Une deuxième page, c'est... Alors là, vous voyez, c'est pas... là, c'était une page stockée, donc une page qui existait avant que je sois là et qui existera après que je ne sois plus là. Ça, c'est une page avec un éditeur. Donc, c'est une page qui vous permet d'interroger un site, d'accord ? Donc, ça, c'est une page où on va vous demander la catégorie et l'arrondissement de l'hôtel que vous cherchez à Paris. Et puis là, j'ai une autre page qui concerne les hôtels de Soho. Alors, une fois que vous avez trouvé tous les sites qui vous intéressent, toutes les pages qui vous intéressent et qui concernent les hôtels, vous allez construire un ensemble de logiciels. Donc, plutôt que de vous montrer comment ces logiciels sont construits, je vais vous montrer comment ces logiciels sont utilisés. Donc, je reprends la requête que j'ai faite tout à l'heure, donc, qui concernait les hôtels sur Paris avec 2 étoiles. La première tâche du portail va être de décomposer cette requête de façon à faire des requêtes sur les différents sites qui étaient intéressants. Donc là, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, mon étape de décomposition va trouver 2 sites en fait intéressants. Le premier site, c'était l'Office de tourisme parisien. Et là, il a stocké en fait en dur toutes les adresses des hôtels parisiens et il va savoir que bien, il y a 2 hôtels qui répondent à cette requête. Il y a l'hôtel Le Roy et puis l'hôtel de l'Arc de Triomphe. D'accord ? Ici, maintenant, c'est le 2e site qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est le site des hôtels de Paris. Vous vous rappelez, c'était un site qui proposait un formulaire pour interroger. D'accord ? Donc là, au lieu d'avoir une adresse en dur, hein, comme ici, j'ai une adresse qui est en fait un programme. Donc, c'est la requête que je fais. Et là, je demande une catégorie égale à 2 et un arrondissement égal à étoile. Ça veut dire n'importe quel arrondissement. Donc, une fois que j'ai généré ces requêtes, je vais les lancer. Ces requêtes vont me retourner un ensemble de documents. D'accord ? Donc là, c'est tous les petits documents qui me sont retournés par les hôtels de Paris. Là, c'est le document qui correspond à l'hôtel Le Roy. Là, c'est le document qui correspond à l'hôtel de l'Arc de Triomphe. Mais je n'ai pas terminé le travail. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que toutes ces réponses vont venir avec un format différent et qui n'est pas le format que je vous ai montré tout à l'heure où on voyait le nom de l'hôtel, un petit descriptif, éventuellement son prix. D'accord ? Donc, il va falloir que j'analyse ces documents pour extraire les informations qui m'intéressent et pouvoir comme ça les resynthétiser dans un document. Donc pour ça, je vais devoir écrire autant d'adaptateurs, des logiciels qu'on appelle adaptateurs, qu'il y a de sites qui m'intéressent. Donc là, j'ai un adaptateur pour les hôtels de Paris, un autre pour l'Office du tourisme. Donc ça, ce sont des logiciels qu'il faut écrire. Et puis ces logiciels vont permettre de construire le résultat. Donc ce qu'on voit quand même dans un portail, c'est qu'ici, il y a un logiciel qui est quand même assez gros parce que tous les sites que j'ai trouvés, a priori, je peux en avoir trouvé des milliers, hein. Tous les sites que j'ai trouvés, il va falloir que je les prenne en compte et puis que j'écrive les algorithmes qui vont permettre de construire la requête finale. Et puis, pour tous les sites que j'ai trouvés, il va falloir que j'écrive un logiciel qui extrait l'information et qui est capable de la synthétiser comme moi, j'ai l'intention de la retourner. Donc, c'est un énorme travail. Et comme c'est un énorme travail et que c'est un travail avec beaucoup qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, eh bien, je ne suis pas capable en fait, de maintenir mon site. Le web n'arrête pas de changer, les structures des documents changent sans arrêt. Il faudrait que sans arrêt, les gens réécrivent, les adaptateurs réécrivent le logiciel de décomposition parce qu'ils ne sont plus à jour. De plus, il y a de nouveaux sites qui apparaissent. Je ne suis pas capable de les prendre en compte, sauf si je suis en permanence à l'écoute du web. Et puis, il y a des sites qui disparaissent. C'est-à-dire que dans mon logiciel de décomposition, dans mes adaptateurs, il y a des choses qui, de toute façon, sont caduques et n'ont plus de raison d'être. Ça, c'est un premier problème. Donc, je ne tiens pas à l'échelle du web, je ne suis pas capable de donner des informations vraiment pertinentes. Le deuxième problème, qui à mon avis est tout aussi important, c'est que vous avez une certaine vision du monde. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas poser la requête que vous avez envie de poser. Là, tout à l'heure, si je regarde mon portail, il me permettait uniquement de poser des requêtes sur la catégorie et la ville. Moi, si ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des hôtels avec piscine, mais je n'étais pas capable de poser cette requête. Donc, en conclusion, on a 2 familles de logiciels de recherche d'informations. La première, ce sont les moteurs de recherche. Ils manquent d'intelligence. Ils vous retournent des questions pas très filtrées, trop de réponses. Globalement, ils ne vous permettent pas de poser de questions précises. Et la deuxième famille, les portails, sont beaucoup trop difficiles à maintenir. On ne peut pas imaginer maintenir ça à l'échelle du web. Ça n'est pas possible. La raison de cette déficience en fait des 2 familles de logiciels en fait tient, à mon humble avis, pas combien d'ailleurs, au format de représentation des données, les données telles qu'elles sont vues par les logiciels. Alors, le W3C, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'il y a eu un exposé hier, c'est un consortium qui définit des normes pour une meilleure utilisation du web. C'est un consortium avec plus de 400 organismes qui sont des gouvernements, des sociétés, des laboratoires de recherche, etc. Donc ce W3C avait normalisé HTML et maintenant normalise XML et propose aux utilisateurs du web d'utiliser maintenant XML plutôt qu'HTML. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité d'aller regarder ce qui se passe derrière les pages que vous voyez dans votre navigateur. Donc, pour ça, quel que soit votre navigateur, ici c'est Netscape, avec Explorer, vous avez la même chose, vous avez en haut un petit bouton qui est affiché. Et si vous descendez, en tout cas dans Netscape, c'est comme ça que ça se passe, vous avez « Source de la page ». Et là, quand vous allez faire ça, ce que vous allez voir, c'est les données telles qu'elles sont vues par les ordinateurs, par les logiciels. Vous voyez que c'est beaucoup moins plaisant. Donc tout à l'heure, ce qu'on voyait, c'était le résultat d'une recherche sur les livres de Victor Hugo. Regardez pas, vous allez avoir mal au cœur. Je voudrais m'arrêter à un endroit, voilà, ici, par exemple. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour montrer comment c'était représenté. Donc ici, c'est un livre de Hugo Claus, que je ne connais pas. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est ça. C'est que l'information donc, que Hugo Claus est un auteur, elle n'est pas là. Je ne sais pas qu'Hugo Claus est un auteur. Hugo Claus est entouré par certaines balises. Vous vous rappelez, donc, ces balises, c'est les choses que comprennent les logiciels. Donc là, A, donc ça c'est parce que c'est un lien. Et puis il y a trois balises de fonte. Alors les fontes, c'est les polices de caractère. Donc il doit y avoir une balise ouvrante de fonte qui doit vous dire... voilà, c'est d'Arial Helvetica sans sérif, une autre qui vous donne la couleur, la troisième qui vous donne la taille. Donc globalement, vous savez que Hugo Claus doit être affiché comme ci et comme ça, mais vous n'avez aucune idée de ce que Hugo Claus représente. D'accord ? Comme vous n'avez aucune idée de ce que Hugo Claus représente, eh bien, vous avez beaucoup de mal à comprendre à quoi correspond ce document. Donc à cause de ça, on n'est pas capable d'automatiser la compréhension des documents sur le web. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on le voit. Voilà, Hugo Claus, à propos de Dédé. Ça, c'est ce qu'on voit à l'écran, et tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'est ce que voit le logiciel. Donc moi, humain, je regarde ça, bon, mais je comprends que c'est des listes de livres, il y a des dates de parution, des éditeurs que je connais, mais un logiciel n'est pas capable de le comprendre. Donc comme il n'est pas capable de le comprendre, il n'est pas capable de l'analyser, d'inférer des choses avec. Alors, de façon plus simple, je vais vous montrer un petit document en HTML. Je vous laisse le lire, ou je vais le lire. Non, je vous laisse le lire. Ce que j'aimerais en fait vous amener à voir, c'est que voilà, il s'agit d'un autoradio dont la référence est ARX24. Mais bon, je parle aussi de la référence du précédent autoradio de la même série, d'accord ? Là, le logiciel n'a aucune raison de savoir, de comprendre que ARX24 c'est la référence de l'actuel et ARX14 c'est la référence de l'ancien. D'accord ? Sauf à comprendre le français, ce que n'est pas capable de faire un logiciel, il va pas comprendre. Autre chose, ici, je dis que c'est équipé d'enceintes d'une valeur de 590 francs, mais que ça ne coûte que 1200 francs. Mais de la même façon, le logiciel ne va pas être capable de comprendre qu'est-ce qui coûte 590 et qu'est-ce qui coûte 1200. Est-ce que le prix de l'autoradio, c'est 1200 ou 590? D'accord? Donc, dans le texte, il n'y a aucune information pour comprendre les données. Donc, vous avez quand même des logiciels qui comprennent un peu la langue naturelle, qui sont capables, par exemple, de faire des traductions. Mais en général, d'abord, ils prennent énormément de temps. Et puis, ils sont ciblés. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui vont fonctionner sur des composants électroniques. Mais bon, ils ne sont pas capables d'analyser n'importe quel document dans n'importe quelle langue et de les comprendre. Donc, globalement, un logiciel ne comprend pas ça. Maintenant, je vais vous montrer le même document dans une représentation XML et vous allez voir la différence. Voilà. Donc ça, c'est une représentation XML de ce document. Donc XML, ça veut dire Extensible Markup Language. Markup, c'est pour les balises. Donc c'est un langage à balises extensible, globalement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que mes balises, au lieu de dire en caractère gras, en large, en rouge, en bleu, etc., elles disent des choses beaucoup plus intéressantes. Elles disent, bien, voilà un produit. Puis à l'intérieur de ce produit, on va trouver une référence, la désignation, le prix, la description. Et puis, le prix, eh bien, ça va être constitué d'un montant et d'une unité. D'accord ? Donc, on comprend qu'avec des indications comme ça, le logiciel va être quand même beaucoup plus à même de faire des choses intelligentes. Sur ce, bon, là, je vous montre une vue un peu biaisée de la situation. Ce qu'il faut voir, c'est quand même, c'est que X, c'est pour extensible, ce qui veut dire que globalement, les gens ont le droit d'utiliser toutes les balises qu'ils ont envie d'utiliser. Donc, tout à l'heure, c'était bien, je pouvais me raccrocher à un dictionnaire pour comprendre ce que c'était qu'un produit, qu'une désignation, etc. Mais bon, l'utilisateur, enfin, la personne qui a codé le document aurait tout à fait aussi bien pu utiliser des balises comme prod, desiprod, p, qui sont quand même beaucoup moins porteuses de sens que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais qu'à cela ne tienne, même prod, un logiciel peut être éventuellement capable de comprendre s'il n'a que ce mot-là à comprendre. Il va mettre en correspondance prod avec un dictionnaire, et puis éventuellement, il va s'il met prod et puis il met descriptif à côté ou desk, il va éventuellement comprendre que c'est un produit avec un descriptif. Alors ça, c'est déjà, on voit déjà que c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. On est capable de comprendre les documents éventuellement quand ils arrivent. Mais ce qui est encore beaucoup mieux, c'est que c'est pas, on ne va pas être obligé de comprendre les documents un par un, mais on va pouvoir comprendre des familles de documents, parce que XML introduit ce qu'on appelle les déclarations de type. Donc là, c'est la déclaration de type qui correspond au document que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je dis, voilà, il y a un élément qui s'appelle produit et qui est composé de 4 sous-éléments, référence, désignation, prix et description. Après, je dis, l'élément référence, c'est un PC data, ça veut dire que c'est tout simplement une chaîne de caractères. Désignation, c'est pareil. Et puis là, je dis, le prix, c'est constitué d'un montant et d'une unité. D'accord ? Donc je vais devoir, enfin d'ailleurs, ce n'est pas une obligation, mais la plupart des gens le font, définir le type de mon document. Et ce qui est fantastique, c'est que je ne définis pas le type d'un document, mais je définis le type de plusieurs documents. Donc, dans le cas le pire, il y a un type et un document. Dans le meilleur des cas, en tout cas pour en ce qui nous concerne, il y a une description et 100 000 documents. D'accord ? Donc, j'ai besoin d'analyser une description pour comprendre 100 000 documents. Donc, on voit quand même un gain de temps considérable. Et puis, il y a encore un autre avantage à XML, qui est la chose suivante. Vous regardez cette DTD, c'est toujours la même. Hein, donc, j'ai un produit, une référence, une désignation. Et vous regardez maintenant un formulaire. Vous voyez que le chemin entre la DTD et le formulaire est quand même assez... Il n'y a pas un grand pas à faire. Hein. Produit, je le retrouve ici. Référence, désignation, ça va constituer mes champs ici. Puis là, ici, j'ai des champs imbriqués parce que le prix était constitué d'un montant et d'une unité. D'accord ? Donc, entre, si j'ai une DTD, construire le formulaire qui va permettre de retrouver des documents qui répondent à des questions précises, comme donnez-moi les documents qui contiennent des produits dont le prix est un montant supérieur à 1500, ça va être assez facile. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'XML ou quasiment pas d'XML sur le web. Hein. Un robot qui tourne en ce moment à l'INRIA nous donne de l'ordre de 2 ou 3 pour 1000 documents XML et encore les adresses de départ sont des adresses suffisamment ciblées pour qu'il aille chercher au bon endroit. Donc il y a très peu d'XML sur le web. Alors pourquoi ? Eh bien, on a vu tout à l'heure que HTML, c'était un standard où à l'intérieur, il y avait des instructions pour afficher le document. Dans XML, il n'y avait pas d'instruction pour afficher le document. D'accord ? Donc il va falloir rajouter cette partie. Je veux dire, il faut quand même que le document soit affiché d'une façon ou d'une autre et il faut que la personne qui a créé ce document dise comment elle veut que ce document soit affiché. Donc à l'heure actuelle, on rajoute à un fichier XML, on va faire correspondre à un fichier XSL, Stylesheet Language, Extensible Stylesheet Language, ou quelque chose comme ça. En tout cas, donc, c'est un langage de forme de représentation. Et ce qui va se passer, c'est qu'à l'heure actuelle, ces deux-là vont passer dans un logiciel, on va générer de l'HTML, et c'est ce que vont voir les clients. Donc vous, là, vous êtes ici, et quand vous allez chercher sur le serveur un document, eh bien, en fait, même si ici, il y avait de l'XML et du XSL, ce que vous allez voir, vous, c'est du HTML. Donc le robot, même s'il y a du XML sur le serveur, il ne va pas le voir, il va voir du HTML. Et pourquoi ? Parce que mon logiciel ici de navigation n'est pas capable de traiter XML. Donc s'il n'est pas capable de traiter XML, clairement, je ne vais pas pouvoir aller chercher du XML. Mais la dernière version de Internet Explorer, qui doit être la version 6, je crois, traite maintenant XML. C'est-à-dire que ce qui va se passer maintenant, c'est que ici, vous aurez toujours les documents XML, mais la stylesheet pourra être interprétée sur le client. C'est-à-dire que ici, on va passer du XML, et là seulement, on va générer le HTML. Donc, enfin, les clients vont pouvoir voir le XML. Donc, vous, utilisateurs, enfin moi, en tant qu'utilisateur, personnellement, je m'en fiche, hein, que ce soit HTML ou XML, ça m'est parfaitement égal. Mais en tant qu'informaticienne qui a envie de créer des outils pour faciliter la recherche d'informations sur le web, j'ai très, très intérêt à ce que XML passe. Donc, je vous parle très, très rapidement, parce que je crois qu'il me reste combien de temps, là ? 5 minutes ? Très, très rapidement, du projet Xylem, donc, qui est un projet qui est mené à l'INRIA. Donc Xylem, ça vient du mot Xylem, tout simplement, qui est l'ensemble des éléments qui conduisent la sève brute vers les feuilles. Donc ça nous paraissait être un joli symbole. Et puis, en plus, il y avait un X, un M et un L dans le désordre. Mais enfin bon, comme on était intéressé par XML, ça nous paraissait être un joli nom. Sur ce, on a enlevé l'accent grave, parce que sur le web, les accents, ça passe plutôt mal. Alors, très vite, qu'est-ce que Xylem ? Quels sont les défis auxquels on doit s'attaquer et quel est l'état des lieux ? Alors, notre pari, c'est que XML, quand les outils seront là, quand Internet Explorer, dernière version, sera utilisé par tous, quand Netscape et les autres permettront de lire du XML, eh bien, les serveurs ne donneront plus du HTML, mais nous donneront du XML. Et nous donneront du XML parce qu'ils ont tout intérêt à le faire. Si vous considérez l'évolution naturelle du web, le web, pour l'instant, on y accède essentiellement par son ordinateur. Demain, on va y accéder par son portable ou par son Palm Pilot. Je ne sais pas comment on dit Palm Pilot en français. Donc, des petits ordinateurs. Donc, pour une même information, on ne va pas afficher la même information de la même façon. Si vous avez un grand écran, vous allez pouvoir afficher beaucoup de choses. Par contre, sur un téléphone, on va vouloir afficher qu'une portion d'information. D'accord ? Donc, en ayant un seul document XML, vous allez pouvoir avoir trois feuilles de style différentes, une pour le PC, une pour le téléphone et une autre pour le Palm Pilot, d'accord ? Donc les gens ont tout intérêt à avoir une seule fois l'information sous format XML et puis simplement des feuilles de style différentes pour les différents supports. Donc on pense que ça va fonctionner. À partir de là, notre objectif, c'est de constituer un système de recherche d'information qui soit intelligent et qui permette vraiment de poser toutes les questions et sans passer par des sommaires extrêmement longs et compliqués, et qui couvre le web et ses évolutions. C'est-à-dire qu'à l'inverse des portails, qui soient vraiment dynamiques et qui suivent les évolutions du web. Donc ce travail de recherche est mené par le projet Verso de l'INRIA, mais également, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équipe base de données de l'Université de Mannheim, l'équipe intelligence artificielle et systèmes d'information du laboratoire de recherche d'informatique de l'Université de Paris-Sud, et l'équipe Vertigo du CNAB. Alors, je vous dis très rapidement un exemple d'utilisation de Xylem. Voilà, moi, je suis intéressée par l'art et la peinture. J'ai envie de poser une question sur l'art et la peinture. Donc, j'ai tapé art peinture, mais j'aurais pu taper autre chose. J'aurais pu taper Picasso, c'était ça que je voulais taper. Là, en l'occurrence, je tape art et peinture. Mon système Xylem, quand il va recevoir ça, va aller regarder dans les domaines qu'il a stockés, quels peuvent être les domaines qui sont concernés par l'art et la peinture. Là, en l'occurrence, merveilleux, bien sûr, je vous sors un domaine qui est exactement art et peinture. Bon, mais de façon générale, ça va fonctionner à peu près comme ça. Donc, vous me donnez quelques mots et moi, je vous donne en fait un formulaire. Là, je vous le présente sous forme d'arbre, mais j'aurais pu vous le présenter sous forme de formulaire. Je vous donne un formulaire qui correspond, je pense, aux questions que vous avez envie de poser. Une fois que j'ai fait ça, vous allez être capable de dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le titre et le musée des œuvres dont l'artiste est Picasso et la date est 1937. D'accord ? Donc là, je ne vais pas vous demander les pages qui contiennent Picasso 1937 et les œuvres, mais je vous demande une chose très précise, qui est le titre et le musée des œuvres dont l'artiste est Picasso à la date 1937. Et là, le logiciel Xylem va vous retourner une page, qui contiendra exactement l'information que vous avez cherchée. D'accord ? Donc ça, c'est l'objectif. Donc ici, ça concerne l'art et la peinture. J'aurais pu faire de la même façon distribution jouets. Il m'aurait vraisemblablement sorti une page avec des produits, des compagnies, etc. Et j'aurais tapé ce qui m'intéresse. Alors, quels sont les défis ? Il y a un premier défi qui est le défi de la sémantique. Et c'est pour ça qu'on a des collègues d'intelligence artificielle avec nous. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des DTD, donc qui sont des descriptions de type. Ce qui va se passer, c'est que pour un domaine, il ne va pas y avoir une DTD, mais il va y avoir potentiellement 100 000, 10 000 DTD, d'accord ? Et je ne vais pas donner aux utilisateurs 10 000 formulaires. Ce que j'aimerais, c'est leur donner un formulaire pour chaque domaine. Donc il va falloir que je comprenne ces DTD, que je sois capable de les analyser, de les regrouper en domaines et de donner pour chaque domaine une interface homogène. Le deuxième problème, ça va être de suivre les changements pertinents du web. Je ne vais pas m'intéresser à tous les changements, mais je vais m'intéresser à des changements. On va voir ce que je vais vouloir faire, des changements qui intéressent mes utilisateurs. Et puis enfin, bien sûr, le problème de l'échelle. Je vais vouloir gérer des milliards de documents, traiter des milliers de requêtes de façon simultanée, aussi efficacement que les moteurs de recherche, c'est-à-dire vraiment en tout automatique, avec un rafraîchissement automatique et rapide. Est-ce que je dois m'arrêter là ? 2-3 minutes ? Je vais vous montrer un petit transparent comme ça. Voilà. Donc, j'avais beaucoup de DTD. Là, c'est la partie sémantique. J'ai beaucoup de DTD, d'accord ? Donc, le premier travail que va devoir faire mon logiciel sémantique, ça va être de comprendre comment regrouper ces DTD. Quels sont les DTD qui concernent l'art ? Quels sont les DTD qui concernent la culture ? Quels sont les DTD qui concernent le tourisme ? Donc, un premier travail d'analyse de ces DTD. Donc, on va travailler avec des dictionnaires, avec des analyseurs lexicaux, pardon. Et on va essayer de regrouper les DTD par unité de sens, par domaine. Une fois que j'ai fait ça, la deuxième chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'associe une seule interface à chaque groupe. Donc je ne vais pas associer 15 interfaces pour la culture, 15 interfaces pour le tourisme, mais une seule. Donc je vais dériver ce que j'appelle des DTD abstraites, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un arbre, tout simplement, qui représente un domaine et qui va vous permettre de poser les questions que vous avez envie de poser. Donc je pars de beaucoup de DTD et j'arrive à juste quelques domaines que vous allez pouvoir interroger. Donc ça, c'est la partie sémantique. Je n'ai pas tout à fait fini, excusez-moi, on continue avec la partie sémantique. Donc ça, c'est bien joli, mais bon, ce n'est pas terminé. Une fois que vous avez associé votre DTD abstraite à votre domaine, il va falloir aussi que vous sachiez faire la correspondance entre des éléments de votre DTD abstraite, là tout à l'heure c'était l'œuvre de la peinture de l'art, d'accord, avec les mêmes éléments dans les DTD concrètes, parce que c'est les DTD concrètes, ce sont les documents qu'on interroge, ce n'est pas une abstraction, d'accord. Donc ici, on voit que j'ai mis en correspondance cet élément de la DTD abstraite avec plusieurs DTD réels. Donc là, je dis par exemple le nom d'une peinture dans cette DTD D1, eh bien ça correspond à l'œuvre de la peinture dans ma DTD abstraite. Donc ça, c'est la tâche du module sémantique. Je vais très rapidement. Donc pour ce qui est de la dynamicité, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous permettre de poser des questions comme celle-ci. Donnez-moi la liste des films sur Paris toutes les semaines, ou uniquement la liste des films nouveaux sur Paris toutes les semaines. Ou alors, quand il y a une nouvelle exposition au Grand Palais, envoyez-moi le descriptif. D'accord ? Ce sont des requêtes que j'aimerais être capable de soumettre à mon système d'information. Donc, eh bien, pour ça, on a tout un système qui permet de faire ça de façon automatique. J'ai plus le temps, donc on passe. Et le dernier élément, c'est le passage à l'échelle. Donc, bien sûr, comme pour mes index tout à l'heure, ce que je vous ai montré, il ne va pas y avoir un ordinateur, mais il va y avoir des milliers d'ordinateurs. Et le but du jeu, ça va être de répartir les données de façon suffisamment intelligente pour avoir des temps de réponse rapides. Mais contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, on va avoir une indexation structurelle. Alors, pourquoi ? Une requête, maintenant, ce n'est pas une liste de mots-clés. Donc là, ma requête, ce n'est pas « donnez-moi les documents qui contiennent prix, produit, description et caméra ». Ma requête ici, c'est « donnez-moi les documents ». Enfin, d'ailleurs, pas les documents, ça pourrait être le prix ou n'importe quoi, ou la description. Je veux dans le document qu'il y ait une certaine hiérarchie. Je veux qu'il y ait un produit, sous ce produit, qu'il y ait une description. Sous cette description, je trouve le mot-clé « caméra ». Et puis, également, sous le produit, il doit y avoir le prix, puis c'est le prix qui m'intéresse. D'accord ? Donc, c'est une requête qui est structurée. Ce n'est pas une requête, une suite de mots-clés, mais les mots sont liés entre eux. Il y a une intelligence. D'accord ? Alors, les index que j'avais avant ne vont pas du tout fonctionner de la même façon. Donc, je vais toujours avoir mon index avec ma table dite de hachat, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis ici, au lieu d'avoir les documents, tout à l'heure j'avais X, Y, Z, eh bien ici j'ai des documents, mais j'ai deux petits codes aussi qui me permettent en fait de situer le mot dans le document. Donc ici, je dis, produit, ça apparaît dans le document D1 à la place 12-200. Ça apparaît également dans D1 à la place 201-400. D'accord ? Et grâce à ces petits codes, je ne vous donne pas l'algorithme, mais je vais être capable de comprendre quels sont les documents qui contiennent vraiment cette hiérarchie-là. Pas ces quatre mots-clés-là, il y en a quatre, un, deux, trois, quatre, oui, mais ces quatre mots avec cette structure, d'accord ? Ce qui est très différent. Et j'ai terminé.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Je vous remercie beaucoup de votre brillante exposé.
Je vous remercie beaucoup.
Je voudrais poser sur les termes que vous utilisez, puisque je suis un étranger apprenant le français. Est-ce qu'il y a les liens entre Internet et le web et la toile ? Et puis, comme vous avez dit que la toile et le web, c'est la même chose. Pourquoi ne dit-on pas la web au lieu de le web ?
Ah, c'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Je pense que vous trouvez toujours des gens qui disent... Je vois par exemple, il y a un autre mot anglais qu'on utilise en français qui est bug. Vous en trouvez qui disent le bug et d'autres la bug. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi on disait l'un plutôt que l'autre. Donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Et maintenant, la différence entre web et Internet, c'est différent. Internet, c'est un réseau. D'accord ? Et le web, c'est ce que je vous ai montré, c'est cet ensemble de documents qui utilisent Internet. En fait, le web utilise Internet, hein, d'accord ? Mais c'est juste une utilisation d'Internet qui repose donc sur des documents hypertextes qui permet donc d'aller chercher un document en cliquant sur des liens. Mais c'est une utilisation d'Internet.
Bien. Encore pour seconde question, très très en détail. Vous avez parlé à propos du xylem,
oui,
qui aura normalement un accent circonflexe.
Accent grave.
Accent grave.
Oui.
Ah oui. Mais vous n'avez pas mis accent grave,
oui,
en disant que c'est difficile.
Oui,
mais voulez-vous comment dire, reproduire, par exemple, le tableau, le croquette structuré, par exemple?
La requête structurée, oui. c'est après, oui.
C'est la dernière.
Oui, j'ai mis des accents.
Oui, je crois que vous avez
mis... Ah non, je n'ai pas mis d'accent à caméra, d'ailleurs.
Vous avez mis partout accent circonflexe.
Ah, mais c'est
dans
parce
ce
que
cas-là, je... accent grave, et qui doit être plus facile que accent circonflexe. Il
en
me
fait,
semble.
Accent circonflexe ou grave, c'est pareil. C'est aussi compliqué. Le problème, c'est que nous, en France, nous avons des accents, d'accord ? Donc, on a en général des claviers qui permettent de taper des accents. Maintenant, si vous allez en Russie, en Chine, au Japon, aux États-Unis, les gens n'utilisent pas la même langue et n'ont pas les mêmes claviers, d'accord ? Donc, si vous donnez un nom à une société, vaut mieux l'appeler Xylem sans accent pour que les Japonais, aussi bien que les Américains, que les Russes, etc., soient capables de taper ces caractères très simples. D'accord ? Oui, bon, voilà, c'est ça, la raison. La raison, c'est que tous les claviers ne supportent pas tous les caractères. Mais par contre, les caractères sans accent, en général, ils les supportent.
Une question là, monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît. Allez-y.
J'ai deux questions. Je ne sais pas si la première est pertinente. XML est un langage structuré. Pourquoi ne pas avoir pris la SNE ? Et la deuxième question, le médiologue Bernard Stiegler dit que un des enjeux prochains, c'est la validation de l'information. Comment cela rentre dans vos recherches, s'il vous plaît?
Alors, pourquoi XML plutôt que ASN1? Donc, il faut peut-être dire que ASN1, donc, c'est un format qui existe, qui est utilisé dans les réseaux et qui est également utilisé par pas mal de projets sur le génome. Il aurait fallu poser la question hier à Jean-François Abramatic. Moi, je suis assez contente du choix XML parce qu'il y a une grande flexibilité. Ça reste un langage assez simple. Maintenant, à SNA, je connais un peu. C'est vrai que c'est un langage qui est aussi assez agréable. Donc, oui, bon. Moi, j'utilise XML parce que c'est ce que propose le W3C. Donc, il faudrait plutôt poser la question à des gens du W3C. Alors, la deuxième question, c'était la validation, c'est ça ? On n'a pas encore réfléchi à ça. Il y a beaucoup de problèmes. En fait, il y a beaucoup de problèmes auxquels on n'a pas encore réfléchi dans Xylem. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un projet qui réunit une vingtaine de personnes. Pour l'instant, ça fait un an qu'on travaille. Bon, c'est un projet qui nécessite au moins 1000 hommes années. Donc, je pense que quand on en sera à la 850e, on commencera à y penser.
Madame, levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre conférence. D'après ce que je comprends, donc, l'utilisation du langage XML, ça nécessite en fait que les personnes ou les organismes qui créent les pages XML indexent eux-mêmes leurs pages. C'est-à-dire qu'elles doivent renseigner les différentes balises, disant les descriptifs, etc. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait les mêmes balises et il faut que toutes les pages aient des balises qui soient renseignées. Autrement, ça ne marchera pas.
Non, alors
c'est pas ça.
Justement, on espère que ça va marcher sans ça. C'est ce que je vous montrais, je crois, sur ce transparent. L'idée, c'est qu'on va utiliser... Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les techniques d'analyse du langage naturel ne fonctionnaient pas. Elles ne fonctionnaient pas. On n'était pas capable de comprendre un document arbitraire sur n'importe quel sujet en un temps raisonnable pour pouvoir espérer traiter un milliard de documents. Là, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas devoir traiter un milliard de documents, mais on va devoir traiter un milliard de documents divisé par le nombre de documents que vous avez par DTD, donc déjà moins de documents. Et on pense qu'il est beaucoup plus facile d'interpréter une hiérarchie de noms qu'on espère relativement signifiants. Vous voyez là, ici, ce que je dois interpréter, si je regarde ma DTD de tout à l'heure, c'est tout simplement, excusez-moi, une succession de noms qui sont produits, références, désignations, prix, descriptions. Hein ? Oui, c'est moi qui l'ai faite, mais quelqu'un d'autre aurait pu la faire, et d'ailleurs je vous l'ai montré. Je peux avoir également quelque chose qui ressemble à ça. Mais nous pensons, d'ailleurs nous avons déjà des logiciels qui fonctionnent et qui font ça, nous pensons que nous serons capables d'interpréter, alors pas tous, hein, on va faire des bêtises, c'est-à-dire des fois il y aura des interactions humaines, mais dans la plupart des cas, nous serons capables d'interpréter ces balises. On sera capable de comprendre que prod fait une référence à un produit. Ah mais elles existent, c'est dans XML. Ah ben, il faut que XML existe, ça c'est clair, hein, je vous ai dit, c'est un pari qu'on a fait. Mais non, tout le monde n'utilise pas les mêmes balises, parce que là on voit qu'on utilise la balise prod, et là on utilise la balise produit. Moi j'aurai un logiciel qui sera capable de comprendre que prod et produit représentent en fait le même concept. D'accord ? Donc je ne vais pas faire une analyse de la langue naturelle au sens où je ne vais pas analyser des textes entiers, mais je vais analyser des mots, et je vais tâcher de mettre en correspondance des mots qui me paraissent être dénoter le même concept. Donc on va avoir des techniques d'analyse des mots, mais pas de la langue, si vous voyez ce que je veux dire.
On va donc poser des questions
pour
les réponses pour lesquelles il y aura des balises.
Non. Enfin, de toute façon, il y aura des balises. XML, moi je pars du principe que XML est là, donc il y aura des balises. Maintenant, si vous regardez ce que faisait mon analyseur sémantique, il générait une DTD, donc moi je vais vous permettre d'interroger l'art avec ces balises-là, pas avec d'autres, mais si vous vous rappelez, derrière ça, j'étais capable de mettre d'autres balises, d'accord ? De dire, grâce à mon analyseur sémantique, j'étais capable de dire, eh bien, l'œuvre, c'est le même, je vais trouver l'information que je cherche sous la balise nom de la balise peinture du document D1. D'accord ? Et ça, j'ai un logiciel qui a été capable de comprendre ça, qui a fait une analyse des mots et de la structure des mots. Donc, notre... Nous croyons que les gens ne vont pas utiliser des mots A, B, C, D, X, Y, Z, parce que là, c'est clair que s'ils utilisent A, B, C, D, X, Y, Z, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, qu'ils vont utiliser des mots quand même relativement signifiants, et que grâce à des dictionnaires et à des techniques d'analyse des mots, je vais être capable de comprendre les connexions entre prod, produit, des, prod et désignation, etc. Voilà, mais ça sera fait automatiquement.
Une question là, madame.
Oui, bonjour. Ma question va un petit peu dans le même sens, en fait. Votre exposé était titré « Du texte à la connaissance par le web », sous-entendu « Comment faire des requêtes qui se rapprochent le plus possible du langage naturel et avoir une réponse pertinente ». Or, il me semble que dans la représentation, enfin la solution que vous nous proposez, il y a une structuration a priori de la connaissance. Or, le langage naturel est celui qui permet de la créativité et l'élaboration de nouveaux concepts. Comment allez-vous gérer ce risque de figer la réalité à partir de la structuration que vous proposez ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, je vous propose une structure, mais en fait... comme l'analyse, enfin je veux dire la correspondance entre la structure que je vous propose et les structures telles qu'elles existent, telles que les gens les créent dans les documents, cette analyse se fait automatiquement. Donc je peux, donc à terme, l'utilisateur en l'occurrence, ça ne sera pas l'utilisateur, vous, moi, devant notre station, mais éventuellement des sociétés qui sont intéressées par le logiciel, il est tout à fait possible de créer d'autres représentations, de créer d'autres vues d'un domaine. Je ne suis pas obligée de créer la vue comme ça, mais je peux tout à fait dire, non, en fait, moi, ce domaine, je préférerais le voir comme ça. Et après, on va relancer le logiciel d'analyse des DTD pour mettre en correspondance le nouveau domaine, enfin, la nouvelle description du domaine avec la réalité. Bon, sur ce, effectivement, je vais rester toujours dans une structure, enfin, je vais toujours vous permettre de poser des requêtes avec une structure, avec une hiérarchie, ça, je ne sais pas faire autrement. Comme je vous l'ai dit, l'analyse du langage naturel, on n'est pas encore au moment où on va être capable de l'appliquer à 10 milliards de documents en un temps raisonnable. Donc ça reste quand même comme ça. Mais bon, je dis quand même qu'il me semble que poser une requête comme ça, ça se rapproche quand même beaucoup de ce que j'aimerais faire. Voilà.
Une question là-haut, monsieur, levez-vous.
Bonsoir madame.
Bonsoir.
Ça rejoint un peu la question de madame. Je voulais savoir si le format XML, quand il sera généralisé, permettra de résoudre les problèmes de traduction entre les différentes langues universelles. Et il y a déjà des logiciels qui existent pour traduire un texte en français ou en allemand, par exemple. Bon, ça donne un peu n'importe quoi, parce que justement, ça ne reconnaît pas le langage parlé. Je voulais savoir si ce format permettra de résoudre ceci.
Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais bon, je ne suis pas une spécialiste de l'analyse de la langue naturelle, mais je ne crois pas. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraisemblablement traduire la structure de façon plus intelligente. C'est-à-dire que partant, je serais capable de traduire des DTD. Ça, je dirais que ça doit être assez facile. Mais par contre, le texte qui est sous... qui se trouve sous les balises, à l'intérieur des balises, ça, je ne pense pas que ça va m'aider à le traduire. Quoique, effectivement, ça vous donne un contexte. Donc, le contexte, ça devrait faciliter la traduction. Enfin, oui, peut-être. Peut-être.
Là-haut, monsieur, oui. Levez-vous. Merci.
Bonjour, madame. Merci pour votre conférence très claire.
Merci.
Vous avez mis en lumière les difficultés que l'on peut rencontrer avec les portails dues à leur complexité, etc. Je comprends mal pourquoi certaines sociétés comme Vivendi, qui viennent de lancer les portails vis-à-vis, vu les problèmes que vous évoquez, à savoir les difficultés de mettre à jour les pages qu'ils puissent proposer. Je ne vois pas l'intérêt économique qu'ont ces sociétés à proposer de tels portails, puisque les utilisateurs exigeants que nous sommes attendent justement que les remises à jour soient constantes, voire quotidiennes. Alors que cette même société met en place en parallèle, par voie de téléphone portable par exemple, un système vocal où vous dites simplement une phrase très simple, je veux les horaires du cinéma, enfin de films, et on vous met directement en contact avec un serveur qui vous donne justement les horaires de cinéma.
Alors l'intérêt qu'ont ces sociétés, c'est que pour l'instant quand même, je vous ai montré, pour l'instant il n'existe que deux familles de logiciels, je veux dire c'est soit un moteur de recherche, soit un portail. Et de fait, les gens qui utilisent les moteurs de recherche sont assez fatigués de cliquer, claquer sur les 200 ou 200 000 réponses qu'on vous retourne, et donc se tournent plus volontiers vers les portails, même si les portails ne sont pas à jour. Et pour l'instant, c'est la seule technologie qu'on soit capable de mettre en place. Donc c'est assez naturel d'aller vers les portails, et puis on voit aussi le succès de portails tels que Yahoo, par exemple. Donc j'imagine que... ils se disent qu'économiquement, ça doit être quand même assez rentable. Alors maintenant, comment fonctionnent ces services audio-tech? Je pense que c'est un peu comme ce que vous aviez d'ailleurs sur Minitel, que je trouvais assez sympathique. Sur l'annuaire, on pouvait taper... Moi, je voulais acheter un canapé. Alors, je tapais canapé dans la rubrique et puis, hop, automatiquement, ça me sortait tous les vendeurs de canapés. Ça reste quand même très limité. C'est-à-dire que la reconnaissance audio, ça va se faire sur certains mots. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en correspondance un mot avec quelques rubriques. Mais ça reste très limité. Je pense que si vous demandez la vitesse du Puma, vous allez avoir des problèmes. Ou même les adresses de distributeurs de jouets, on va peut-être vous mettre sur un annuaire, mais bon, ça reste encore, à mon avis, très limité. Donc ça épate, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses simples qu'on peut demander et ça marche. Mais dès qu'on passe à quelque chose d'un peu plus élaboré, ça ne marche plus.
J'ai une question.
Oui.
Quels sont les différences entre banque de données et base de données au truc d'information et train d'information?
Entre banque de données et base de données et entre...
Base de données, truc d'information...
Ah, flux banque, d'information.
Oui, truc d'information et terrain d'information.
Flux d'information et terrain?
Oui, terrain d'information.
Je ne sais pas. je ne sais pas.
Oui, donc quelle est entre différence base de données et truc d'information?
Flux d'information, ça dénote de l'information qui se déplace. Donc, typiquement, on pourrait imaginer que le web, il y a des flux d'information, donc de l'information qui se déplace, alors que dans une base de données, ça va être plutôt statique. Donc, une base de données, c'est de l'information qui est stockée à un endroit, qui est organisée. Une banque de données, je ne sais pas très bien. Une banque de données, ça pourrait être une base de données ou peut-être que c'est quelque chose de moins organisé. J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Il faudrait rechercher dans le dictionnaire.
Sophie Cluet, je vous remercie.
Merci.